Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Chaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Sawa. On parlera de trois mangas des éditions Delcourt Tonkam avec la présentation de Après avoir regardé le ciel étoilé, la chronique du volume 2 du prix du reste de ma vie et la chronique du volume 2 de Evol. On aura ensuite un point sur les sorties mangas de la semaine. On aura On aura une news musicale parce que vous verrez, les chroniques sont assez longues et ça sera une soirée un peu spéciale Makina. Il y a plusieurs morceaux de Makina et qui durent un petit peu longtemps. Donc du coup, j'ai dû rétrécir un peu le conducteur. Donc on aura donc cette présentation de l'artiste, les trois chroniques de manga, les présentations des sorties manga de la semaine. Et on terminera donc l'émission avec la news musicale concernant Jeff Satur, qui sortira son premier album Space Shuttle number 8, et qui a dévoilé le clip de Swan Noi, Yellow Leaf. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Zero de Dino, et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Sawa. Go so, 비추어진, 내가 어색해, 짙어진, 다른 분위기 어느새, 머릿속 꿨던 꿈, 이루어져라고 있어, 시간의 교감 변화를, 뭐 이제 그 까맣듯, 했던 서울 시리, 첫 인생 한결보다 싫은, 나를 보내 그동안의 변화를 짐작해. Nothing is easy, 갈수록 깨달아, 그렇게 오늘을 느껴. Oh yeah, yeah. 늘했던 책 넥타이 이제 풀어 새롭게 조염해 그동안 늘 발돋움해 다시 시작해 수아 교복도 때문에 기존 꿈을 찾아가 바뀐 날 밤에 땀으로 뜨겁게 날 삼아 날마다 한층 한층 더 올라가 내 학년과 가치도 다른 책가 봐 점점 크게 친구들보다 무대가 내 일부분 되고 믿기지 않을 것 같던 오늘 어제의 축하 또 내일을 알려 Nothing is easy 갈수록 깨달아 그렇게 오늘을 느껴 늘했던 책 넥타이 이제 풀어 새롭게 조염해 그동안 늘 발돋움해 다시 시작해 수아 졸아 형들 뒤따라 보내 하나 야망의 현실화 주제보다 앞자리에 yeah, 9-2-0 수능과 달리 노력은 재수 없지 떠지 이제 꽃이 피워 9-2-0 수능과 달리 노력은 재수 없지 떠지 이제 꽃이 피워 9-2-0 내가 어색하지 않길 Donc c'était Dino avec la chanson Zero. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Sawa ou DJ Wasa, de son vrai nom Koichi Sawa. Donc c'est une compositrice, DJ, musicienne et chanteuse d'électro et de pop japonaise qui est née le 6 novembre 1983, elle est donc âgée de 40 ans. Elle a fait ses débuts en 2006 et elle est toujours en activité aujourd'hui. Elle fait partie de l'agence Bellwood Records depuis 2012 et elle a également fait partie des agences Stardust Records de 2003 à 2004, Cyclops de 2008 à 2009 et Epic Records Japan Inc. de 2009 à 2012. Donc attention, il ne faut pas la confondre avec une autre artiste du même nom, donc Sawa, qui a, elle, participé à l'OST du jeu The World Ends With You. Donc notre Sawa DJ Wasa vit dans la banlieue à environ une heure de Tokyo. Influencé par ses artistes préférés comme M-Flow, Jazztronic et Free Tempo, elle a commencé l'écriture et l'interprétation de musique basée sur la musique de club. Dans le même temps, elle est allée à l'université pour réaliser son rêve d'enfance, devenir enseignante. Elle a été titulaire de la licence pour devenir professeure d'anglais dans une école secondaire et elle a enseigné dans un établissement local pendant environ 3 mois. Sa voix saisit ensuite sa chance en 2006 lorsqu'elle participe à un événement de club à Yokohama qu'elle pensait être une audition. Elle a alors attiré grâce à cet événement l'attention de créateurs musicaux. En mai 2008, elle participe en tant que chanteuse à Discovery, produite par Yukihiro Fukutomi et qui a servi en tant que chanson thème de l'ouverture de la PSP Software Nippon No à Sokode. Un mois plus tard, le 18 juin, elle fait ses débuts avec son mini-album Colors, un mini-album produit par Takeshi Hanzawa du groupe Free Tempo. Cet album fait ses débuts en 8e place au classement des albums complets iTunes Music Store et est resté dans le top 3 pendant 3 semaines. Donc côté discographie, elle a sorti un total de 4 albums, le premier Welcome to Sa World le 7 juillet 2010 et le dernier Kouki Aisare Stance qui est sorti le 14 mars 2018. Elle a ensuite sorti 7 mini-albums, le premier Colors le 18 juin 2008 et le dernier Ringa Ringa le 24 septembre 2014. Elle a sorti 7 singles numériques, donc on a le premier Good Day Sunshine le 16 mai 2012 et le dernier Candy Girl qui est sorti le 4 novembre 2007. Pour finir, elle a participé à une OST, l'OST de Twin Angel Song Selection Jewelry, qui est sorti le 2 août 2017. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de Sawa. On commence avec Swimming Dancing et on viendra juste après pour la présentation du manga après avoir regardé le ciel étoilé.
ここに来れば一人でもそこは
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Sawa avec la chanson Friday Night. On passe maintenant à la présentation du manga Après avoir regardé le ciel étoilé, du titre original Hoshizora o Mitsumeta sono Atode. Donc c'est un yaoi de genre drame-romance qui a été écrit par Kida Bisco et pré-publié dans le Comic Fleur. La version japonaise est parue en 2022 aux éditions Media Factory avec deux tomes qui terminent la série. Et la version française est parue le 16 août 2023 aux éditions Delcourt Tonkam, dans leur collection Moonlight, avec deux tomes également. Vous pourrez retrouver Après avoir regardé le ciel étoilé dans le commerce au prix de 8,50€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc une histoire d'amour forte, touchante et pudique, entre un designer en fauteuil roulant et un photographe spécialisé dans l'astrophotographie. Il s'agit du premier Boys Love de la collection Moonlight. Donc le résumé de cette série, Subaru Miyazawa est designer et se déplace en fauteuil roulant à cause d'une paralysie des membres inférieurs. Il doit créer le design d'une brochure pour un spectacle dans un planétarium en collaboration avec son photographe favori, Togo Amase. Une fois son travail terminé, Subaru se rend à l'avant-première du projet et se retrouve face à Togo lui-même. Ils admirent ensemble le ciel étoilé et Subaru sent son cœur accélérer. Une fois la séance terminée, Subaru se surprend à interpeller Togo en lui disant « Pourrais-je vous revoir ?» Voilà, donc je rappelle que la série Après avoir regardé le ciel étoilé est disponible aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec deux tomes qui terminent la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est World War Tonight Toki Niha Okoseyo Movement de Dish. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 du prix de reste de ma vie.
Get it.
Donc c'était Dish avec la chanson Wow War Tonight, Tokiniha Okoseyo Movement. On passe maintenant à la chronique du volume 2 du manga Le Prix du Reste de ma Vie. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre drame psychologique romance qui a été écrit par Miyaki Sugaru, dessiné par Taguchi Shoichi avec le chara-design de E9L, traduit par Julie Guerrier et prépublié dans le Shonen Jump+. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 3 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight, avec également 3 tomes. Ce volume 2 est sorti le 26 août 2020 au prix de 7,99€. Donc le résumé de ce tome, le compte à rebours est désormais lancé pour Kusunoki, qui a vendu quasiment toute sa vie contre une somme d'argent dérisoire. Voulant profiter du peu de temps qu'il lui reste, il va tout faire pour revoir Himeno, son ami d'enfance, mais les choses ne vont pas forcément tourner comme il l'espérait. Donc jeune homme désabusé par la vie, Kusunoki a vendu tout le reste de son existence auprès d'une étrange boutique et n'a gardé que 3 mois, quand bien même la valeur de sa vie ne lui a pas rapporté grand-chose. Depuis, il poursuit ses dernières semaines d'existence, tout d'abord un peu nonchalamment, mais en étant étroitement surveillé par Miyagi, une jeune femme à l'allure taciturne, qui, en tant qu'employée de la boutique, doit le surveiller en permanence en restant à une distance étroite pour veiller à ce qu'il ne commette rien de répréhensible. C'est ainsi qu'il partage sa vie avec cette observatrice discrète qui a pour particularité de ne pouvoir être vue que de lui. Et à présent, alors que la fin de sa vie approche doucement mais sûrement, le jeune homme voit ressurgir en lui le désir de revoir la seule fille qui a jamais compté pour lui, Himeno, qui était en quelque sorte sa rivale et sa plus précieuse amie quand ils avaient 10 ans. La première moitié de ce deuxième tome se consacre alors au cas de Himeno, cette fille qui fut autrefois si précieuse dans la vie de Kusunoki, au point que ses deux enfants, 10 ans auparavant, s'étaient fait la promesse que s'ils étaient toujours seuls 10 ans plus tard, ils se marieraient. Ce n'était qu'une promesse d'enfant bien sûr, mais à présent Kusunoki souhaite revoir Himeno, mais pour quelles conséquences ? Tout cela sera-t-il idéal dans ses retrouvailles ? Miyagi le prévient d'emblée, Himeno n'a elle non plus pas du tout eu un parcours facile, entre rêves partis en fumée, arrêt du lycée en cours de route, problèmes de couple, et l'observatrice préfère même ne pas tout lui dire pour ne pas lui faire trop de mal. Tandis que l'on suit avec un certain intérêt Kusunoki se préparant presque avec entrain, chose rare pour lui, à revoir Himeno, au point de demander à Miyagi de jouer son rôle pour mieux se préparer, tout le passage centré sur cet ami d'enfance de notre héros s'avère très intéressant pour les réflexions disséminées en filigrane, entre les souvenirs idéalisés, les rêves et promesses d'enfants devenant des désillusions face aux réalités de la vie et de la société, sans oublier la cruelle vérité finissant par tomber sur le jeune homme concernant ce que Himeno a toujours pensé de lui. Une vérité cristallisant encore un peu plus certains de ses échecs, ainsi que les conséquences du manque d'intérêt qu'il a pu montrer pour son entourage. Arrivé à la moitié du volume, on a alors le sentiment d'avoir un Kusunoki qui ne peut plus se rattacher à quoi que ce soit pour essayer de retrouver un semblant de bonheur et redonner un minimum de sens à son existence. Et pourtant, c'est bien à partir de cette énième désillusion que quelque chose semble changer en lui. Kusunoki s'éloigne de la société, jette l'argent qu'il lui restait, en fait un peu plus à sa tête comme s'il était plus libre, et c'est une chose qui lui est également permise par l'unique personne qui se soucie encore de lui, son observatrice. Petit à petit, notre héros le comprend, Miyagi est un immense secours pour lui, et elle se soucie de lui au-delà de son rôle d'observatrice, ne serait-ce qu'en ne lui ayant pas dit tout ce qu'elle savait sur Himeno pour qu'il ne soit pas encore plus meurtri. Si bien que Kusunoki lui-même commence à changer à son égard, se montre plus gentil, lui offre une partie du lit, fait attention à elle, voire accomplit même certains de ses rêves à ses côtés, le passage au lac aux étoiles en étant le meilleur exemple. On entrevoit un homme qui se lâche enfin un peu plus, qui se fiche même qu'on le regarde bizarrement si jamais il se met à parler à l'invisible Miyagi en public, qui prend également soin de se rappeler certaines choses comme cette dame gênée qui, en l'ayant aidé dans son enfance lors d'une fugue, lui permet encore aujourd'hui de croire un peu en autrui. Avec cette mentalité un brin différente, la disparition des chaînes qui le retenaient et la présence de Miyagi, est-il encore temps pour lui de trouver le bonheur quand bien même celui-ci ne pourra durer que quelques jours ? Donc malgré quelques inégalités visuelles dans les personnages, ainsi qu'un aspect introspectif moins riche que dans le roman, cette adaptation manga du roman Sugaru de Sugaru Miyaki reste alors très satisfaisante et elle a toutes les cartes en main pour se révéler assez aboutie au bout du troisième et dernier volume. Notons également qu'en fin de tome, on a droit à une petite histoire courte de 22 pages, centrée sur le cas d'un homme qui, accompagné de sa fille, se voit proposer par le même boutiquier que Kusunoki d'aller vendre un peu de sa vie. Que fera-t-il donc ? Voilà, donc je rappelle que la série Le Prix du Reste de ma vie est à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec 3 tomes qui terminent la série. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, alors c'est I Sold My Heart de DJ Gary MC en featuring avec PJ Makina et Gemma Stevenson et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
I'm
c'était DJ Gary MC avec la chanson I Sold My Heart en featuring avec PJ Makina et Gemma Stevenson. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu une sortie aujourd'hui lundi 12 février avec chez Black Box le volume 1 du quotidien fastueux de Maîtresse Ruriko. On aura ensuite d'autres sorties pour mercredi 14 février avec chez K-Books la sortie du volume 1 de Chonshu et le volume 1 de Daisy, How to Become the Duke's Fiancé. Chez Mangetsu, on aura la sortie du volume 6 de Coq de Baston, le volume 2 de Land, le volume 3 de Pumpkin Knight, le volume 1 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, et on aura également le volume 2 de cette même série. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 1 de Father, I Don't Want This My Age. Aux éditions Panini, le volume 1 de Host Club, le lycée de la séduction, donc la Perfect Edition 2024. On aura le volume 5 de Jungle Juice, le volume 2 de Lothing Under the Clouds, le volume 10 de Lone Wolf and Cub, la réédition 2021, le volume 1 de Rush, la Perfect Edition, et le volume 8 de Shut L. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 11 de Insomniac, le volume 1 de Love Coach Koikabu-kun, je vais y arriver, le volume 5 de Pourquoi attendre, le volume 5 de Suicide Girl et le volume 12 de 3 Yakuza pour une otaku. Chez Casterman, on aura la sortie du volume 9 du Vieil Homme et son Chat, le volume 6 de Olympia Kyklos et le volume 47 de Skip Beat. Chez Le Lézard Noir, ensuite, on aura la sortie du volume 1 de la réédition de Lunatic Lovers et le volume 1 de la réédition de Yume no Kyusaku. Et chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 3 de Marriage Toxin et le volume 5 de Two-Face Taemon, qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Pour jeudi 15 février, ensuite, chez Manabooks, on aura la sortie du volume 1 de 365 Days to the Wedding, le volume 7 de Corpse Party Blood Covered, le volume 4 de Mon Fils semble avoir été réincarné dans un autre monde et le volume 12 de Persona 5. Chez Cornelius, on aura la sortie du volume 1 de Conte du Caniveau. Chez Kurokawa, on aura la sortie du volume 1 du Goût des Fraises. Chez Akata, le volume 5 de Mon Petit Ami Genderless qui sera le dernier tome de la série. Le volume 4 de Nomi et Shiba. Le volume 8 de Saturn Return. Et le volume 8 de Si nous étions adultes. Et enfin chez Kotoon, on aura la sortie du volume 1 de The Office Blind Date et le volume 2 de Villain to Kill. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 16 février avec chez Noef Crafts la sortie du volume 4 de Capeta, le volume 3 du Labo de Musubu, le volume 2 de Nichijo et le volume 6 de On l'a fait. Chez Claire de Lune, on aura la sortie du volume 3 de Circe, chez Kana, le volume 9 de Entre les Lignes, le volume 18 de Moriarty, le volume 20 de Naruto, l'édition Hokage, et le volume 6 de Tokyo Alliance. Chez Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 5 de Kaio Dante, le volume 3 du Bateau Usine, le volume 4 de Numéro 6, et le volume 6 de Primal Gods and in Ancient Times. Et enfin, la dernière sortie de la semaine, ce sera pour les éditions Rue de l'Échiquier, avec le volume 1 de Lettres de Taipei. Voilà, c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Neko Jumpen de DJ Nanashi. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Evol. Donc c'était DJ Nanashi avec la chanson Neko Jumpin'. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Evol. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, drame, science-fiction, surnaturel qui a été écrit par Kaneko Atsushi et prépublié dans le Comic Beam. La version japonaise est parue aux éditions Hunter Brain avec 6 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 2 est sorti le 12 avril 2023 au prix de 19,99€ et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, pour anéantir ce monde cruel et pourri, des adolescents disposant de pouvoirs qui n'auraient jamais dû tomber entre leurs mains multiplient les délits sous le pseudonyme d'Evol, passant ainsi pour des criminels. Ils ignorent qu'ils ont à leur trousse Lightning Volt, un héros légèrement particulier et épris de justice qui dédie sa vie à éradiquer le mal. Donc Evol, la nouvelle série d'Atsushi Kaneko, s'enfonce davantage dans la noirceur et dans la théâtralisation d'un mal super héroïque qui explose tout sur son passage. Donc pour rappel, Evol c'est un peu le Z-Boys de l'un des rois du manga underground, à la différence majeure que Kaneko-san remplace l'humour cracra et satirique de Garth Ennis par un reflet sans concession d'une adolescence meurtrie et suicidaire. Dans ce tome 2, nos trois anti-héros détenteurs de pouvoir, suite à leur tentative de suicide ratée, forment désormais un groupe de méchants auto-revendiqués appelé Evol, un nom qui est dû à une faute d'écriture transformant le mot Evil en Evol, un choix qui brouille intelligemment la notion de bien et de mal. Mais pour l'heure, cette envie de détruire ce monde se résume surtout à la destruction d'un centre commercial pendant la nuit. Donc pas de victimes, mais un peu de bruit, tout le contraire des super-héros officiels Lightning Volt et sa mythique et psychopathe petite sœur, qui accumulent les assassinats discrets et impitoyables sous couvert de fausse justice, au nom d'un maire corrompu. Donc qui sont les vrais méchants dans l'histoire, entre les trois adolescents se revendiquant comme des super-vilains, mais qui trouvent en réalité une échappatoire à leur prison traumatique, et les super-héros héréditaires qui ne sont que de purs instruments de meurtre. Les uns deviennent des punks pourchassés par la justice, tandis que les autres font l'objet d'adoration. La question du mal, de sa symbolique et de ses origines, c'est toute la question qui est mise en valeur dans ce deuxième volume, de cette superbe et terrible série qui ne se limite pas aux non-dits et décrypte le passé de deux des ados et les raisons qui les ont poussés à tenter de se suicider. Donc attention, l'émotion est forte dans ce volume qui ne prend pas de gants, et ce grâce au style acéré d'Atsushi Kaneko qui nous plonge dans la souffrance et la psyché de ses personnages, à commencer par Akari, la fille renfrognée au verbe tranchant. Nous la rencontrons pour la première fois à l'hôpital psychiatrique. Les abus qu'elle subit de la part de ses parents et notamment de son père sadique sont sous-entendus, mais dans ce tome 2, tout est évoqué frontalement à travers la figure métaphorique d'un lapin taille humaine qui rappelle la psyché d'un Donnie Darko. Nous avons droit à une plongée cauchemardesque dans le subconscient de cette fille qui s'est inventé un ami imaginaire, devenu un double schizophrénique pour oublier et fuir les abus de son père. Forcément, la genèse du mal n'est pas loin et la jeune Akari devient dans la bande celle qui aura le plus à cœur de détruire ce monde, d'autant plus que son pouvoir flamboyant est symboliquement le plus destructeur. Atsushi Kaneko délivre des planches cauchemardesques pour cerner au mieux le caractère vulnérable de ses personnages. Cette image du lapin ténébreux vous suivra par-delà la lecture. Akari apparaît comme une Alice bafouée et brisée par la viciosité de son père et par l'indifférence de sa mère. Mais le lapin qu'elle poursuit dans le terrier ne l'entraînera pas forcément dans le pays des merveilles, mais plutôt dans les limbes. Tout comme dans le premier tome avec l'image de cette lune déformée et larmoyante, le mangaka multiplie les cases surréalistes, brouillant la réalité avec la déformation du traumatisme. Un style expérimental qui régalera les amateurs du style underground du mangaka. L'autre personnage mis en valeur, c'est celui de Nozomi, personnage renfermé qui s'est isolé suite à une humiliation en public en raison de son homosexualité, une orientation encore jugée trop taboue au Japon et qui fait de Nozomi un personnage reflétant la réalité sociale d'une stricte intolérance. Nozomi apparaît comme un adolescent attachant qui a été poussé à l'isolement, mais qui peut malgré tout compter sur le soutien maternel toujours présent. Sera-t-il celui qui contrôlera son pouvoir pour le bien ? Sa future confrontation face à un mal évident en fin de tome le laisse présager. La tentative de suicide de Sakura, la cheerleader, n'est pas encore expliquée dans la série, mais tout au plus, nous savons que Sakura n'est pas d'origine japonaise, ce qui va impliquer une forme de discrimination tournée vers elle. Encore une fois, à travers ces personnages jugés marginaux, Atsushi Kaneko délivre un pamphlet et féroce contre une société peu bienveillante à l'égard de ces personnages, et encore emprisonnée dans une discrimination latente. Le caractère destructeur de ces personnages, qui ne commettent pas des massacres comme le duo super-héroïque, possède surtout un aspect un peu révolutionnaire, comme des marginaux se libérant des carcans suicidaires d'une société qui les a bafoués ou violentés. Avec ce second tome, on demeure aussi dans une satire féroce à l'égard des super-héros. Donc je n'en dirai pas plus, mais le duo fraternel super-héroïque est tout simplement flippant et bien tourné. Ce sont des psychopathes, mais on devine plus particulièrement chez Lightning Volt, le grand frère, une souffrance latente liée à son héritage de super-héros. Sous le masque se cache d'ailleurs un monstre blessé, mais le personnage le plus flippant reste sa petite sœur. Totalement mutique et impitoyable, cette dernière est une incarnation de pur sadisme dont le petit sourire et la coupe au bol vous feront frémir à chaque apparition. Donc certes, celles et ceux qui connaissent l'œuvre de Garth Ennis ne seront pas surpris par le portrait malveillant des super-héros de Evol, mais c'est une influence bien tournée qui apporte un certain enjeu au nouveau titre d'Atsushi Kaneko. De plus, au niveau formel, le noir et blanc tranchant du mangaka souligne encore plus cette épaisseur du mal faussement héroïque. Evol est un titre de super-héros profondément noir, l'intrigue avance et s'achève dans ce volume sur le début d'une double confrontation infernale. On attend donc avec impatience le tome 3 qui ouvrira les hostilités. Voilà, donc je rappelle que la série Evol est à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 4 tomes de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Drinking Boys de DJ Ozma, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec News Musical. Donc c'était DJ Ozma avec la chanson Drinking Boys. On passe maintenant à la news musicale pour terminer cette émission. Donc le 8 février dernier, l'auteur-compositeur-interprète thaïlandais Jeff Sature a dévoilé Space Shuttle No. 8, son premier album digital. Il compte 18 titres, dont 3 bonus, et reprend la discographie du chanteur à partir de fin 2021. Ainsi, vous y trouverez des pistes issues de singles antérieurs tels que Highway sorti en 2021, Fade en 2022, Dum Dum en 2023 et Sound My Ha Ghost, son 10e single datant du mois dernier. Il y a également les versions anglaises déjà parues de certains titres comme Hide sorti en 2022 et la version chinoise de Fade, Wozui de Jiu Sheni, qui était sorti en 2023. L'album contient également 3 titres inédits, Almost Over You, Saturdays, une chanson d'amour pour ses fans du même nom, ainsi que Swan Noi, Yellow Leaf, qu'il présente comme son 9e single, et dont le clip a été révélé quelques heures après la sortie de l'album. Suite à la sortie de son album Space Shuttle No. 8 et de son dernier clip, Jeff Sature s'est exprimé dans un live sur son compte Instagram. Il a expliqué qu'il y a 18 titres dans son album pour correspondre à l'âge où il a débuté, soit 18 ans. Ce même nombre est également obtenu en additionnant les chiffres de la date de sortie et il se retrouve également dans la durée totale du temps d'écoute, qui est de 1h08. L'album est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute si ça vous intéresse de le découvrir. Et comme le dit l'expression Jamais 203, après l'album et le clip, le mois de février est le point de départ d'une tournée asiatique dans 6 pays pour l'artiste. Elle se terminera en avril par la ville de Bangkok, qui grâce à un fort engouement et à l'épuisement rapide des places, s'est vu rajouter une date supplémentaire. Voilà, donc pour vous faire un petit point sur la liste des pistes de cet album, on a donc Dum Dum, Ken Go, Conti Toi Cha Lum Fun. Je vais plutôt dire les noms en anglais, je crois. Ensuite, on a Loop, Highway, Complicated, Sound My A Ghost, Swan Noi, Yellow Leaf, on a Fade, Black Tie, Almost Over You. On a ensuite des versions en anglais de Hide, Fade, Lucid et Dum Dum. On a la version chinoise donc de Fade, Wozui de Jiu Sheni, qui est une chanson bonus. Et on a 2 autres chansons bonus, Stranger et Saturdays. Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission d'Asian Bubble de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Asian Bubble, mais aussi pour mon autre émission Cordialement Geek, que vous retrouverez vendredi prochain de 18h30 à 19h sur Neptune. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
ใจใส่ผมของเราอาจเปลี่ยนไป 来拜问替你抓住你盘大我宽拉扬不拜你不色体黑包的背个空迷目这就这么来都看不到风水了了一等Long to be my zillow